Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. La social-démocratie n'est pas totalement morte, on l'a retrouvée en Espagne. Le parti socialiste vainqueur des élections, mais avec qui va-t-il gouverner? Et autre très grosse nuance du tableau espagnol, l'entrée de l'extrême droite au Parlement, au pays de Franco, 24 députés. En France, le gouvernement dû en même temps met en musique les promesses post-débat d'Emmanuel Macron. Journée de travail à Matignon, Édouard Philippe en première ligne, question... Quelles économies pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu, notamment? La destruction de la nature menace l'homme autant que le changement climatique. Constat angoissant, un de plus. À l'ouverture d'un grand sommet ce matin, bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour,
oui. Ça se passe à l'UNESCO et c'est très important.
Oui, c'est une session de travail cruciale de l'organisme scientifique des Nations Unies sur la biodiversité. Elle a débuté ce matin. Elle doit adopter un rapport scientifique sur l'état de la planète, un sombre inventaire.
Les détails avec vous tout à l'heure, Sandy. Dans ce journal encore, il faut briser la honte et le silence. Message du ministre de l'Intérieur qui installe la cellule de prévention des suicides dans la police. Monsieur le Président, n'allez pas trop vite. Plus de 1000 experts, architectes, conservateurs signent une tribune. Deux semaines après l'incendie de Notre-Dame, nous en parlerons avec l'invité de ce journal. Quand un entraîneur ordonne à ses joueurs de laisser l'adversaire marquer, c'est l'un des gestes du week-end sportif. Nous verrons cela avec Xavier Monferrand. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, que dites-vous ce matin?
Eh bien, c'est assez partagé entre nuages et éclaircies parfois assez belles, notamment dans le sud-ouest et près de la Manche. Le ciel est plus chargé sur le Grand Est, le Finistère et le Piémont des Pyrénéens. C'est autour de la Méditerranée qu'on trouvera le plus de soleil. Mais le Mistral et la Tramontane sont assez forts. Et puis en Corse, le temps est plus variable avec des risques d'averses attendus, notamment sur le relief. Côté température, prévoyez 12 à 19 degrés en général et jusqu'à 22 degrés dans le sud-est.
A tout à l'heure là aussi pour les détails. Et puis le personnage du jour, un doudingue, un ingénieur qui participe chaque année au concours Lépine.
Vous savez ce que c'est que ce truc-là?
Un ressort, mais un ressort à quoi?
C'est un ressort qui peut s'étendre jusqu'à 5 mètres pour accrocher tout ce qu'on a besoin de garder à portée de main au plafond. La télécommande que tout le monde cherche au-dessus du canapé, ben vous l'accrochez au plafond avec ce ressort, chacun peut y accéder.
Et d'autres trouvailles tout à l'heure au micro de Sandrine Houdin, le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Ça alors, un socialiste heureux et vainqueur à des élections, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu. Pedro Sanchez, leader du parti socialiste espagnol après les législatives dans son pays.
Cela faisait 11 ans que l'on n'entendait pas, le parti socialiste a remporté les élections législatives. Et par conséquent, c'est l'avenir qui a gagné et le passé qui a perdu. On ne veut pas de régression, on ne veut pas de réaction, on ne veut pas de retour en arrière. Nous voulons un pays qui avance et qui regarde vers l'avenir.
Alors oui, à moins d'un mois des européennes, le Parti socialiste remporte les législatives en Espagne, 123 sièges de députés sur 350. Mais, bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour Bruno.
Envoyé spécial de France Inter à Madrid. Mais il n'a pas de majorité, le PS, il va devoir gouverner avec d'autres. Et Isabelle, former une coalition, eh bien, c'est un exercice nouveau en Espagne.
Oui, et un exercice surtout très compliqué. Je peux vous dire que les calculatrices chauffent depuis hier pour arriver au chiffre magique de la majorité, 176 sièges. Faut-il pour cela s'allier avec la gauche radicale de Podemos? Oui, mais ça ne sera pas suffisant. Alors faut-il chercher l'appui des centristes? Ça, oublié, Ciudadanos préfère rester dans l'opposition. En fait, plus qu'une combinaison, ce que cherche Pedro Sanchez, c'est une combine pour faire sans les indépendantistes catalans, qui pourraient très bien lui réclamer en échange de leur soutien la tenue d'un référendum d'autodétermination. Pas question pour lui de se laisser piéger. Alors faut-il plutôt rester minoritaire et tenir la barre en solitaire? En fait, toutes les options sont ouvertes. Un vrai casse-tête. Inédit, effectivement, note Claudie Pérez, journaliste politique au quotidien El País.
Ça existe en Europe, mais en Espagne, on n'a jamais eu ça. Ce sera la première fois, et les premières fois sont les plus difficiles. Mais on vient déjà de passer 3-4 ans d'instabilité, avec des partis qui n'ont pas réussi à créer des alliances et à se mettre d'accord. Ça, il faut que ça change, parce qu'on ne peut pas se permettre de nouveau 3 ou 4 ans d'instabilité. L'Espagne doit se réveiller.
Alors ça ne durera peut-être pas 3 ou 4 ans, mais en tout cas rien ne sera réglé avant les élections locales et régionales qui se tiennent le 26 mai en même temps que les européennes.
Alors Isabelle, ajoutons au paysage la déconfiture de la droite. Le Parti populaire perd plus de la moitié de ses députés, il n'en a plus que 66. Repli de la droite au profit de l'extrême droite, le parti Vox. Voilà l'autre enseignement majeur du scrutin au pays de Franco. Pour la première fois depuis l'instauration de la démocratie, il y a des députés d'extrême droite et pas une poignée, hein. Ils sont 24 Isabelle.
Oui, 24, mais c'est beaucoup moins en fait que ce que laissaient penser les sondages et ce n'est certainement pas assez pour peser sur les choix du futur gouvernement. Il est peu probable que Vox, par exemple, réussisse à faire modifier la loi sur l'avortement. Peu probable qu'il puisse suspendre l'autonomie de la Catalogne. Toutefois, c'est vrai, une digue a cédé en Espagne. Après Matteo Salvini, Marine Le Pen ou Geert Wilders pour les Pays-Bas, eh bien le leader de Vox apporte un nom supplémentaire à la liste des populistes et des nationalistes qui est en train de se constituer pour faire entendre leur voix au moment des élections européennes.
Isabelle Labéry en direct de Madrid pour France Inter. En tout cas, il y en a un à qui les succès du Parti Socialiste fait du bien. C'est le candidat social-démocrate aux européennes en France, Raphaël Glucksmann, à 5% dans le dernier sondage paru ce matin.
La social-démocratie, c'est de vouloir que la puissance publique soit en mesure de corriger les inégalités créées par le marché, de changer le cours des choses. Tout le monde nous expliquait le Parti Socialiste espagnol était mort parce que la social-démocratie était morte, que désormais c'était Podemos ou Ciudadanos, qu'il n'y avait plus d'espace pour une social-démocratie. Et aujourd'hui, on voit que Pedro Sanchez gagne largement les élections en Belgique. Pareil, on nous a expliqué, c'est désormais la gauche populiste qui va l'emporter. Qui est l'homme politique le plus populaire de Belgique aujourd'hui ? Paul Magnette. Parce que c'est un socialiste, un social-démocrate, qui a su trouver dans l'écologie politique l'horizon qui va refonder la social-démocratie. Donc nous, c'est ça notre projet. Et ce vent qui se lève en Europe, la France doit participer à ce vent-là, parce que c'est faux. Le choix entre libéraux et populistes, c'est un faux choix. Il reste un élan social-démocrate, les sociaux-démocrates n'ont pas disparu.
Raphaël Glucksmann avec Guillaume Erner ce matin sur France Culture, voilà qui nous mène à la politique en France. Après avoir beaucoup occupé le terrain au cours du grand débat, après une conférence de presse de 2h30 la semaine dernière, Emmanuel Macron va-t-il un peu laisser la main à son Premier ministre Édouard Philippe? Journée de travail sans le président à Matignon aujourd'hui pour définir un calendrier, une méthode après les annonces de la semaine dernière. D'abord le gouvernement réuni ce matin, puis les députés de la majorité les plus influents ont rejoint le groupe. Édouard Philippe a promis des réponses puissantes il y a quelques jours. On n'en est pas encore là.
Si nous voulons pouvoir traduire dans les faits les annonces du président de la République, nous devons au fond avoir la même vision des contraintes, travailler en commun. Et plutôt que de le faire texte par texte, comme nous l'avons toujours fait, il m'est apparu opportun de pouvoir associer un certain nombre de parlementaires à la définition du calendrier, à la définition d'une nouvelle méthode. Le président de la République nous a demandé d'aller vite, il a raison. Et nous, nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien pour aboutir au bon résultat.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Il veut faire vite mais bien. Le moment Édouard Philippe a-t-il commencé, Cyril ?
Et une petite devinette, Bruno. À la question « Tout remonte-t-il à Matignon ?» qui a répondu « Non, seulement les emmerdes ».
J'ai une idée.
Eh bien, c'est Édouard Philippe qui a remporté le prix de l'humour politique cette année. Prémonitoire peut-être, c'est à lui qu'incombe la charge non seulement de déchiffrer la partition d'Emmanuel Macron, mais surtout d'impulser le tempo. Édouard Philippe, c'est vrai, n'est plus un simple collaborateur. Certains voient ou espèrent voir son mandat à Matignon se finir après les européennes. Philippe, qui va fêter son 2e anniversaire à ce poste, a peut-être gagné du temps, mais il va falloir reconstruire et ne pas décevoir les Français qui attendent des réformes concrètes très vite, d'où la nécessité de réassocier une majorité ces dernières semaines, pour la gauche notamment, à cran. Tout ça se fera sous le haut patronage, bien sûr, d'Emmanuel Macron, qui n'est pas décidé à laisser une totale liberté à ses troupes. Le président va regarder ça de très près pour tout visser. Il n'a plus le droit à l'erreur, car il sait une chose, le seul qui devra rendre des comptes à la fin, eh bien c'est lui, le chef de l'État.
À Cyril Graziani, en direct de Matignon pour France Inter. Alors les réponses du pouvoir à la crise des Gilets jaunes sont-elles ou pas à la mesure de cette crise? On espère en savoir un peu plus à la fin de cette journée de travail. On n'aura pas de réponse ferme, mais peut-être un peu plus de grain à moudre. La baisse de l'impôt sur le revenu, par exemple, oui. Mais pour qui et combien? Sachant que la mise en œuvre est prévue dès janvier prochain, que le coût est estimé à 5 milliards. Annoncé jeudi dernier également la réindexation des petites retraites sur le coût de la vie. Ça coûtera un peu moins d'1,5 milliard. Il y a aussi les garanties promises aux mères célibataires pour leur pension. Alors une des questions clés, c'est comment finance-t-on tout cela? Question d'autant plus aiguë que l'objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires au fil du quinquennat est abandonné. Nous allons supprimer des niches fiscales, dit le président. Bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour Bruno.
Vous aussi en direct de Matignon pour France Inter. Quelle niche ?
Eh bien oui, les niches fiscales, c'est 100 milliards d'euros. Alors, c'est un maquis de ristourne, pourrait-on dire, réparti entre l'État et les régions. Le premier chantier consistera donc à les dépoussiérer, comme l'a laissé entendre Stanislas Guérini, le porte-parole de La République En Marche, invité de Nicolas Demorand ce matin.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'empilement d'aides aux entreprises. Il y a des aides qui sont portées par l'État, d'autres par les régions. Et donc, il me semble que c'est une bonne piste que de regarder l'efficacité de ces aides en fonction aussi des tailles d'entreprise et de pouvoir essayer de dégager quelques milliards d'euros, ce n'est pas rien quand même, à travers cet empilement d'aides qu'on pourrait essayer de mieux rationaliser.
Alors de quoi parle-t-on exactement, Bruno ? Mettons d'abord de côté le CICE, car transformé en baisse de charges pour encore 20 milliards d'euros et amené à disparaître en 2022, vous avez les taux réduits de TVA. Il y en a beaucoup, par exemple la TVA dite des restaurateurs, 2,9 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Les crédits d'impôt, le plus important, le crédit d'impôt recherche, 6 milliards d'euros selon la Cour des comptes, mais pas le plus évident à raboter. Le MEDEF a déjà prévenu qu'il se battrait pour son maintien. D'autres niches, moins visibles, l'abattement pour les pertes de récolte et du bétail, 37 millions d'euros. Le crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo, 10 millions d'euros. Le travail, quoi qu'il en soit, ne sera pas évident. Toutes ces pistes risquent d'amener une levée de bouclier des premiers concernés et viendront s'ajouter obligatoirement aux deux autres leviers annoncés par Emmanuel Macron, la suppression des organismes jugés inutiles au sein de l'État et l'allongement du temps de travail.
Merci Adrien Toffolet pour les moyens techniques. À Matignon ce matin, il y avait Romain Lucquin et Alexandre Abergel. Emmanuel Macron, on l'a dit, ne participe pas physiquement à ce séminaire, notamment parce qu'il part à Berlin cet après-midi. Bonjour Ludovic Piétenu. Ludovic, correspondant de France Inter à Berlin. Le président organise chez la chancelière Angela Merkel. Il est chez elle pour parler du cœur de l'Europe, les Balkans, le Kosovo très précisément. 11 ans après l'indépendance du Kosovo, le dialogue est toujours au point mort avec la Serbie. Et Ludovic, ça inquiète la France et l'Allemagne. Hein.
Oui, plus de 3 heures de discussion sont programmées ce soir en 2 temps. Emmanuel Macron ne rentrera à Paris que très tard dans la soirée et sans doute sans résultat. Selon le communiqué de l'Elysée, je vous le lis, hein, ça n'est qu'un début. L'idée est de trouver la voie d'une relance du dialogue entre Belgrade et Pristina. La Serbie s'est toujours farouchement opposée à l'indépendance de la province du Kosovo, déclarée le 17 février 2008. 5 ans plus tard, l'Union européenne parvenait à les faire se parler en 2013. Donc, 1 an après, l'Europe encore tendait la main à la Serbie en débutant des négociations d'adhésion avec comme condition la normalisation des relations avec le Kosovo. Ça n'a eu que très peu d'effet, d'où cette initiative de Paris et de Berlin qui précise ne pas se substituer au processus déjà engagé par l'Union européenne. La France et l'Allemagne, Bruno, veulent témoigner, apporter à ses responsables politiques serbes, kosovars et à leurs voisins dans la région l'expérience de la réconciliation franco-allemande et en s'inspirant aussi de cet exemple récent dans cette région des Balkans. C'était en début d'année, cet accord passé entre la Grèce et la Macédoine du Nord après 30 ans de brouille.
Merci Ludovic en direct de Berlin. L'actualité internationale, l'actualité du monde, de la planète. C'est encore ce sommet, un sommet de plus sur l'avenir de la planète réuni à Paris. Celui-ci concerne la biodiversité. La destruction de la nature menace l'homme au moins autant que le changement climatique. Voilà le premier message, le premier signal d'alarme lancé lors de ce sommet. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Scientifique et diplomate de plus de 130 pays réunis jusqu'à samedi au moins à Paris.
Oui, et ce sommet a débuté par un spectacle de danse réalisé par les enfants de l'école des arts de Montpellier, une évocation du monde du vivant.
Nature. Nature.
We are nature.
Et un message pour les adultes.
What have you done?
Qu'avez-vous fait? Demandent ces enfants. La réponse tient dans les 1800 pages du rapport scientifique de l'IPBES et l'organe scientifique des Nations Unies pour la biodiversité. C'est le diagnostic le plus complet et récent sur l'état de la planète. Et sans surprise, c'est un sombre inventaire, comme le résume le président de l'IPBES, Robert Watson.
We're in trouble.
On est dans la panade, résume-t-il.
Alors, est-ce que ce sommet va permettre de sortir de la panade ou est-ce que c'est un sommet de plus pour pas grand-chose?
Écoutez, les scientifiques espèrent que ce sera en tout cas un tournant. Les représentants de 132 États sont réunis à Paris depuis ce matin. Ils vont étudier les conclusions de ce rapport à huis clos et adopter un résumé d'une trentaine de pages destiné aux chefs d'État pour les aider à prendre des décisions en matière de politique agricole ou industrielle. Il n'est pas trop tard, insiste Jean-François Sylvain, membre du comité français de l'IPBES.
Moi j'ai coutume de dire qu'on va dans le mur, mais qu'on n'y est pas encore et qu'il est encore possible de faire quelque chose. Et on espère d'ailleurs qu'il pourra y avoir un accord mondial, un peu comme l'accord de Paris, mais pour la biodiversité. Le but c'est tout de même de faire bouger les décideurs là.
Alors, y aura-t-il un grand accord international sur la biodiversité comme celui de Paris sur le climat? Réponse l'année prochaine en Chine pour la COP de la biodiversité. En attendant, avec ce rapport, les dirigeants ne pourront pas dire qu'il ne savait pas.
Merci Sandy Dauphin. Nous avons commencé ce journal en Espagne. Cette information que nous donne l'agence France Presse, un ancien professeur de sport d'une école catholique condamné à Barcelone à près de 22 ans de prison pour des abus sexuels sur mineurs. Une vague de dénonciation d'actes pédophiles secoue en ce moment l'église espagnole.
France Inter, le journal de 13h.
À Paris, les commerces, bars et restaurants sur le parcours de la manifestation du 1er mai mercredi devront fermer le temps de la manifestation. C'est un arrêté du préfet de police qui dit redouter des violences. Les forces de l'ordre, soumises à rude épreuve depuis l'automne, a-t-on en plus échappé à un attentat qui les visait ? Emmanuel Leclerc, 4 personnes en garde à vue depuis ce matin soupçonnées d'avoir préparé un attentat pouvant viser les forces de l'ordre.
Oui, de sources proches de l'enquête, on évoque un passage à l'acte violent à brève échéance. Les 4 suspects qui sont toujours en garde à vue ce midi dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, étaient susceptibles de cibler les forces de l'ordre, selon le parquet de Paris. Selon nos informations, il n'y avait pas de personnes visées en particulier. On sait que les 4 individus qui étaient surveillés depuis plusieurs mois avaient des échanges ces derniers jours qui montraient qu'ils voulaient se procurer des armes. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a confirmé que les services de renseignement avaient des indications suffisamment significative pour redouter un attentat important. La garde à vue des 4 suspects peut se prolonger jusqu'à demain soir. Il faut savoir que l'un d'entre eux est mineur, qu'il a déjà été condamné par le tribunal pour enfants pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs terroristes. Il avait été interpellé en février 2017, il avait 15 ans et une obsession, se rendre en Syrie. Condamné à la peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve, placé en centre éducatif fermé puis incarcéré, il se trouvé la semaine dernière encore au sein d'une structure éducative spécialisée.
Au-delà de cette enquête, un phénomène ne finit pas d'inquiéter et bouleverser les familles de policiers, c'est celui des suicides. Un suicide de policiers tous les 4 jours en France depuis le début de l'année. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a ces slogans « Suicidez-vous » lancés aux policiers pendant ou en marge de certaines manifestations de gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur a installé ce matin la cellule de prévention des suicides promise aux forces de l'ordre il y a quelques jours. David Di Giacomo.
La police doit être plus à l'écoute de ses fonctionnaires. L'une des missions de cette cellule sera donc de mieux former les commissaires et les officiers à la prévention du suicide. Christophe Castaner.
Je ne veux plus entendre dire que ça n'était pas lié à son travail. Le suicide a toujours plusieurs déterminants et le travail peut être un de ces déterminants, mais au pire. S'il ne l'est pas, il peut être un lieu où on va identifier le risque. Le risque de passage à l'acte, et donc il est nécessaire aussi que nous soyons plus efficaces sur ce dispositif-là.
Pour plus d'efficacité, les services de police les plus exposés aux risques psychotraumatiques vont être répertoriés. Quant au médecin psychiatre Jean-Louis Terra, spécialiste de la prévention du suicide, il va aider la police nationale à mieux détecter les passages à l'acte.
Il est possible que des qualités professionnelles empêchent d'être aidées, comme la peur de décevoir et la fierté éventuellement peut empêcher de dire que l'on va très mal. Il y a urgence donc à donner un peu plus de chance aux policiers en détresse d'être reconnus, d'être aidés. Il faut s'assurer que les personnes en détresse reçoivent des messages cohérents qui sont un peu comme des nœuds sur une corde à nœuds qui leur permettent de remonter à la surface.
Et pour aider les policiers fragilisés, une ligne téléphonique leur sera dédiée. Elle sera disponible 24 heures sur 24 et sera mise en place dans 2 mois.
Nouvelle réglementation sur le périphérique de Lyon. Depuis aujourd'hui, vitesse limitée à 70 km/h pour réduire à la fois la pollution et les accidents. Gros temps social peut-être à venir chez France Télévisions. Les syndicats rejettent le plan de départ. Le syndicat FO en particulier annonce qu'il ne signera pas le projet de rupture conventionnelle collective du groupe. Monsieur le Président, n'allez pas trop vite. 2 semaines après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus de 1000 experts, conservateurs, architectes, experts français, experts étrangers, plus de 1000, ils signent ce matin une tribune dans le Figaro. Ils s'inquiètent de la volonté d'Emmanuel Macron de s'affranchir de certaines règles de protection du patrimoine pour reconstruire plus vite Notre-Dame. Parmi ses signataires, il y a l'historien de l'architecture, spécialiste de Viollet-le-Duc, Jean-Michel Legnaud. Il est question de course contre le temps. Lui s'apprêtait à prendre un train quand nous l'avons joint ce matin. Première question, qu'est-ce qui l'inquiète dans la volonté d'Emmanuel Macron d'aller si vite ?
On peut très bien faire un chantier rapidement, on a des précédents, la cathédrale de Chartres a été faite en 4 ans dans les années 1830, mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, il est important de patrimonialiser à l'extrême les interventions et de vérifier exactement les attendus archéologiques et historiques du projet, et donc la phase de projet doit prendre son temps.
Au fond, ce que vous dites, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas fixer un calendrier, le temps du constat n'est pas encore passé.
Le, le, le temps du constat est à peine commencé. Alors je comprends très bien qu'on veuille simplifier les procédures administratives, par exemple le code des marchés publics. On ne prévoit même pas de simplifier les procédures financières alors que c'est elles qui prennent le plus de temps, mais il me paraît inimaginable que l'on veuille écraser la phase d'instruction.
Dans cette tribune, il est précisé qu'il y a une déontologie de l'entretien, de la conservation, de la restauration. Qu'est-ce que c'est que cette déontologie, monsieur Léniaud ?
Oui, bien sûr, c'est la pratique du service des monuments historiques depuis qu'il a été créé, c'est-à-dire depuis deux siècles, constat de l'existant, vérification de la totalité des données, élaboration d'un projet qui respecte tout ce qui a pu se trouver auparavant, et ne concéder de part à la nouveauté que s'il y a vraiment un interstice pour cela.
Au fond, on a l'impression qu'à travers le cas de Notre-Dame, ce que vous, là, les centaines d'experts qui signaient cette tribune, ce que vous dites, c'est au-delà de Notre-Dame, les chantiers de restauration et d'entretien des années à venir se jouent à travers cet exemple.
Oui, parce que Notre-Dame est le premier des monuments historiques, c'est le plus important d'entre eux. Et si on revient sur la déontologie et la pratique professionnelle qui a été mise en vigueur depuis tant de temps, on peut supposer qu'on créera des précédents pour des restaurations qui seraient certainement mal conduites par la suite.
Il y a un sentiment d'inquiétude important dans votre milieu. C'est rare que plus de 1000 experts se réunissent comme ça pour signer une tribune.
Oui, c'est extrêmement significatif et j'attire l'attention sur le fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans tout l'entourage d'experts que je connais, je suis frappé par la présence de jeunes historiens d'art, de jeunes conservateurs, de jeunes universitaires. C'est une donnée, c'est pas une pétition de vieux croutons, c'est une inquiétude formée par des trentenaires et des quadragénaires pour la plupart.
Et pas mal d'étrangers également. Vous pensez être entendu, vous avez tous des antennes nécessairement au ministère de la Culture. Comment est-ce qu'on aborde cette question ? Est-ce qu'on trouve effectivement au ministère que 5 ans c'est très vite et fixer déjà un délai c'est un peu prématuré ?
Je pense déjà que le ministère de la Culture doit s'étonner du fait que l'on veuille créer une structure qui ne dépendrait pas de lui pour assurer la maîtrise d'ouvrage. Oui. Des maîtres d'ouvrage à la culture, en l'occurrence, il y en a au moins 3. Il y a le service de la Direction régionale des affaires culturelles, il y a les services de l'OPIC et il y a le Centre des monuments nationaux. Et là, on vient en créer un quatrième, c'est-à-dire que ça va coûter et que ça va être pris au détriment du budget qui a été rassemblés par voie de souscription.
Donc il n'y a aucune raison d'utiliser une procédure qui ne soit pas la procédure classique. Au fond, si je résume votre propos et la tribune, trop de politique risque de tuer la qualité de la reconstruction.
Oui, je pense que là, c'est le pâté de l'ours qui va écraser les jardiniers. C'est-à-dire on veut régler un problème de mouche, c'est-à-dire la durée du chantier. Et on risque de déboucher sur un projet mal fait.
L'historien de l'architecture Jean-Michel Léniaud interrogé ce matin sur le quai de la gare et ses propos après la signature de la tribune par 1000 experts ce matin dans le Figaro. N'allons pas trop vite dans la reconstruction de Notre-Dame. Le bilan du week-end de sportif et du week-end de football chez les filles, les Lyonnaises qualifiées une fois de plus pour la finale de la Ligue des Champions, ce sera contre Barcelone. Chez les garçons, Marseille dit quasiment adieu à la même Ligue des Champions la saison prochaine après une défaite à Nantes. Et puis dans le championnat britannique, championnat anglais, le geste d'un entraîneur que nous connaissons bien, Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, il a demandé à ses joueurs de laisser l'adversaire Aston Villa marquer un but. Expliquez-nous ça, Xavier Monferrand.
En début d'année, El Loco avait déjà fait parler de lui en envoyant un de ses sbires espionner un adversaire lors d'un huis clos. Mais hier, Marcelo Bielsa a fait encore plus fort. Leeds recevait Aston Villa et avait besoin de l'emporter dans la course à la montée en Première Ligue. Et ça tournait d'ailleurs plutôt bien puisqu'à moins de 20 minutes du terme, l'équipe de l'Argentin ouvre le score. Aussitôt, une bagarre éclate. Les joueurs de Villa se ruent sur le buteur de Leeds qui a continué à jouer alors que la défense s'était arrêtée puisqu'un joueur de Villa était en fait resté au sol après un duel rugueux. Ça proteste alors de partout. Le banc d'Aston Villa réclame justice et le sang de Marcelo Bielsa ne fait qu'un tour. Et sur le coup d'envoi, il demande à ses joueurs de laisser Aston Villa égaliser. Une scène surréaliste. Tout le monde respecte la consigne ou presque. Un défenseur de Leeds dégoûté continue à jouer sans pouvoir toutefois empêcher l'égalisation. Le problème, c'est que le score en reste là, un partout, et Leeds devra donc passer par les barrages. Mais Marcelo Bielsa, lui, a la conscience tranquille.
En Italie, Naples a officiellement finalement obtenu son billet pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ce week-end. Et puis en Ligue 2 en France, c'est la fin de la 35e journée ce soir, Lorient-Auxerre. Allez, pour finir, voici une personne qui peut rendre votre vie quotidienne infiniment plus facile, résoudre plein de vos petits tracas, le savon qui glisse dans la salle de bain, la télécommande qu'on ne trouve jamais. Cet homme a une invention pour tout. Il s'appelle Nicolas Trubbe, il est ingénieur, inventeur, il a 51 ans. Dans les jours à venir, il va évidemment participer au concours L'Épine. Il collectionne les médailles d'argent et de bronze à ce concours, jamais l'or pour l'instant. Alors que la foire de Paris vient de s'ouvrir, il témoigne au micro de Sandrine Houdin. Le concours L'Épine, c'est mon actu. Petite liste de ses inventions au micro de Sandrine.
J'ai eu la médaille d'argent en 2006 pour cette cuillère avion. Vous voyez, pour faire manger bébé, j'ai considéré que la meilleure hypothèse, c'était de mettre des ailes sur une cuillère pour lui faire manger la purée.
Quoi encore ?
Alors, cette année, je présente un porte-savon, un système qui se met sur le robinet de la douche. Il y a les deux robinets qui sortent du mur et on accroche ce petit hamac. Alors, ça vient en complément de ce que j'avais fait il y a 2 ans. C'est une petite punaise à 3 branches qu'on mettait sur le savon pour éviter, hop, qu'il glisse sur le lavabo.
Il nous arrive à tous, quoi. Alors, encore.
En 2013, j'ai une médaille de bronze pour la vache à beurre. Tout le monde a un problème pour beurrer sa tartine. La biscotte casse parce que le beurre est trop dur. Cette vache à beurre transforme le beurre en paille.
C'est génial. Quoi d'autre encore? Allez, moi, je me lasse pas.
Vous savez ce que c'est que ce truc-là?
Un ressort, mais un ressort
alors,
à quoi?
Alors, c'est médaille de bronze en 2000 au concours L'Épine. C'est un ressort qui peut s'étendre jusqu'à 5 mètres pour accrocher tout ce qu'on a besoin de garder à portée de main au plafond. La télécommande que tout le monde cherche au-dessus du canapé, ben vous l'accrochez au plafond avec ce ressort, chacun peut y accéder. Et elle revient toute seule à sa place.
On peut mettre quoi d'autre, hein?
Alors, on peut mettre la graffeuse au-dessus du bureau, c'est pas un truc qui disparaît tout le temps. On peut mettre ses lunettes, voilà, tout ce qui doit rester à proximité d'un certain endroit.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ça, j'envisage de le présenter au concours L'Épine. Alors, c'est un ventilateur qui se fixe sur la perceuse. Vous voyez ? Ça permet de réanimer son barbecue. On va pouvoir enlever les poussières. On va pouvoir se faire un petit ventilateur.
C'est tout con.
C'est tout bête.
Mais ça vous prend quand ?
Alors, hélas, la bonne idée vient la nuit.
Ah oui ?
4 heures du matin. Ah oui, pour le savon, pour éviter qu'il glisse, il faudrait faire ça. Il y a un autre moment, c'est quand je suis sur mon vélo.
Pour un inventeur, médaille d'or, c'est quelque chose, il n'y a même pas de mots.
Médaille d'or, c'est vraiment le Graal. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis sur le coup, j'y suis pas arrivé. Mais mon grand jury à moi, c'est 450 000 visiteurs du concours L'Épine. Où est-ce qu'on peut rencontrer en France 450 000 personnes qui viennent voir en 12 jours votre invention, Yako L'Épine ?
Nicolas, vous ne vous arrêterez jamais ?
Jamais.
Et 542 inventions sont présentées cette année au concours L'Épine. Notre inventeur était au micro de l'indispensable Sandrine Houdin.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, le temps est calme sur le pays et le ciel est souvent hésitant. De belles éclaircies arrivent à se dessiner près de la Manche, en Bretagne et de la Vendée, au Land et au Midi Toulousain. En revanche, sur le Finistère, les contreforts des Pyrénées et le Grand Est, ce sont les nuages qui l'emportent cet après-midi, parfois assez nettement. Le pourtour méditerranéen passe un après-midi au soleil, mais il faut composer avec Mistral et Tramontane qui sont sensibles. Quelques développements d'averses sont à craindre en Corse, essentiellement sur le relief, mais pouvant tourner à l'orage et donner de la neige au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Une petite averse n'est pas exclue également sur les Alpes-Maritimes. Côté température, les maximales sont en hausse partout et on retrouve des valeurs de saison. Prévoyez 14 à 19 degrés en général, jusqu'à 22 degrés autour de la Méditerranée. Il fait un peu plus frais sur le quart nord-est avec 12 à 15 degrés.